Vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïka, émission qui va se dérouler en trois temps. Nous aurons le plaisir d'accueillir dans quelques instants José dos Santos, écrivain à succès pour sa dernière publication, son roman Immortel paru aux éditions Hervé Chopin. Emmanuel, qui est à mes côtés en studio, aura le plaisir de converser avec lui. Elle aura également le bonheur de nous présenter sa chronique Plume d'Histoire. Et puis, je vous livre dans quelques instants mon coup de cœur. Mais avant cela, je voudrais saluer la mémoire de Christian, Louis et Climon, qui était mon invité la semaine dernière pour nous présenter son magnifique livre consacré au Père Lachaise, le grand cimetière parisien. Il est malheureusement décédé quelques heures après cet enregistrement. Je voulais donc saluer sa mémoire. C'était un entretien tout à fait passionnant. Ce sera son dernier entretien radiophonique. Alors pour le coup de cœur de cette émission, j'ai plongé dans les publications régulières et toujours aussi passionnantes de la collection des dictionnaires amoureux aux éditions Plomb, précisément le dictionnaire amoureux des îles, signé Hervé Hamon. La délicieuse et précieuse collection des dictionnaires amoureux nous invite à un passionnant périple insulaire sous la plume d'Hervé Hamon. Il nous promène d'île en île à la découverte de sites magnifiques, Belle-Île-en-Mer, Ouessant, Molène, Bréhat, Capri, Malte, Lesbos, les Marquises, les Galapagos, Guernesey, sans oublier les splendides paysages corses. Il chemine également vers des territoires plus lointains qui excitent notre imagination, comme Clipperton, perdu dans le Pacifique, ou l'île Tromelin, marquée par le naufrage de l'Utile dans la soirée du 31 juillet 1761. Tragique événement relaté par Irène Frein. Cet ouvrage est dépaysant et chargé d'iode. Il suggère un vagabondage bien agréable en ces temps de crise sanitaire. À chaque page souffle les embruns. C'est une belle idée de cadeau pour les fêtes de fin d'année. Le dictionnaire amoureux des îles, c'est signé Hervé Hamon et c'est publié aux éditions Plomb. Nous allons marquer une première pause musicale dans cette émission avant de retrouver notre invité exceptionnel, José dos Santos. Il était à Strasbourg il y a quelques semaines à la librairie Kléber pour son livre Immortel aux éditions Hervé Chopin. Avant cela, nous écoutons Indochine, J'ai demandé la lune.
se disait quelquefois que c'était juste une aventure et que ça ne durerait pas.
Écoutez, passé, présent, l'émission historique de Radio Judaïca. Nous allons parler d'histoire immédiate, c'est-à-dire d'histoire du temps présent avec José Dos Santos. Bonjour.
Bonjour.
Ça me fait très plaisir de vous recevoir à nouveau au micro de Radio Judaïca. Vous étiez notre invité en studio il y a un an, un peu plus d'un an maintenant. Vous êtes le présentateur vedette du journal télévisé au Portugal et vous êtes aussi un romancier à succès. C'est votre combienième roman, José ?
Je pense que celui-ci, Immortel, c'est le 19e.
Le 19e, mais le 20e est déjà en préparation.
Non, il est déjà publié.
Il est déjà publié.
Oui, le mois prochain, ça sera le 21.
Mais ça sera l'occasion de revenir pour échanger à propos de ce nouvel opus à notre micro. Emmanuelle est à mes côtés, elle a préparé un jeu de questions qu'elle va vous poser maintenant.
Bonjour à vous.
Bonjour, Emmanuel.
Comment allez-vous?
Pas formidable, car je suis un petit peu malade, mais c'est pas...
Pas le Covid, pas j'espère.
Non, pas une intoxication alimentaire.
Ah. Alors, nous allons parler d'intelligence artificielle. Peut-être que l'intelligence artificielle peut faire quelque chose contre...
C'est l'histoire du futur.
Voilà.
Alors, en fait, on retrouve dans votre tome, Thomas Norona, hein, votre... héros préféré aussi des auditeurs, mais cette fois-ci le véritable héros, ou plutôt la véritable héroïne, c'est l'intelligence artificielle, et avec ses côtés positifs et ses côtés extrêmement sombres. Alors on va commencer peut-être par les côtés positifs. Le cyborg est déjà là.
Voilà, en effet, vous parlez à un cyborg à ce moment, car je suis un cyborg. Parce qu'il y a quelques mois, j'ai fait un implant dentaire, et les cyborgs sont effectivement des êtres biologiques et technologiques. C'est ce mélange et ce processus où les deux côtés se mélangent est déjà commencé il y a quelques temps, avec les implants dentaires, cochléaires, oculaires, avec des pacemakers, toute la technologie qui entre dans notre corps. Et à ce moment-là, il y a même des expériences avec des implants de chips d'ordinateur dans le cerveau pour en finir avec la maladie du Parkinson. Et alors, ce processus, il a déjà commencé, et le futur de l'humanité, c'est un approfondissement de ce processus et un jour, nous serons peut-être 99% technologique et 1% biologique.
Alors, dans le 99% biologique, mais surtout 1% technologique, c'est aussi la domotique. Vous parlez même d'une imprimante 3D alimentaire. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir un cuisinier chez soi. L'imprimante 3D fera les plats préférés.
Pardon, je n'ai pas compris la question parce que je n'ai pas bien écouté.
L'imprimante 3D alimentaire, la domotique, c'est aussi l'intelligence artificielle. Rebecca, dans votre roman, l'ordinateur, qui va lancer le plat préféré du héros et qui va sortir par imprimante 3D alimentaire.
Oui, en effet, ce qui se passe, c'est que jusqu'ici, on avait un ordinateur et on écrivait sur l'ordinateur ce qu'on voulait. Maintenant, on est en train de commencer à parler avec l'ordinateur. Alors, les instructions ne sont pas écrites, sont verbales. Et Elon Musk, le patron de SpaceX et de Tesla, il a créé une compagnie qui s'appelle Neuralink, où il essaye d'entrer dans l'ordinateur par la pensée. Alors, c'est en implant dans un chip d'ordinateur dans le cerveau, et là, on peut faire l'interface avec l'ordinateur. Pas un écrivant, pas un parlant, mais un pensant. Et c'est effectivement l'enjeu à ce moment. Ces technologies se développent très vite et vont beaucoup changer. Quand on imagine qu'il y a 10 années, les apps sont apparues, seulement il y a 10 années, pas beaucoup plus. Et aujourd'hui, c'est impensable d'avoir pas des apps. Imaginez-vous Zoom. Il y a quelques mois, on n'avait jamais entendu parler de Zoom. Aujourd'hui, c'est normal. Alors, ces changements sont vraiment très vite. Et bientôt, l'année prochaine, dans les prochaines 5 années, tout sera absolument différent et difficile à prévoir la direction. Sauf que c'est toujours une direction de la technologie qui est encore plus puissante et qui influence notre vie. Par contre, il y a aussi un sujet qui est la manipulation génétique. Car Immortel, mon roman, il démarre avec une histoire vraie.
On allait y venir, hein, à la manipulation génétique, parce que elle est,
oui, oui.
C'est le côté horriblement négatif de l'intelligence artificielle. Le génisme derrière.
Je ne juge pas, mais je fais le constat qu'il aura des grandes conséquences sociales, politiques, technologiques. C'est une chose immense. En 2018, un scientifique chinois, et ça c'est une histoire vraie, c'est le point de départ du roman Immortel, il s'appelle He Zhenkuai, il est allé à Hong Kong, il a annoncé la manipulation génétique de deux enfants qui sont nés en Chine. Il a changé un gène qui s'appelle le gène CCR5, qui est le gène qui fait la régulation de l'entrée du VIH dans le corps humain. Alors, ces enfants avait déjà, avec cette manipulation génétique, immunité pour le VIH. Et la Chine, bon, ça a déclenché un grand débat dans la communauté scientifique, c'était un scandale, en effet. La Chine a dit, bon, vous n'avez rien, on n'est pour rien. Et ce scientifique, il a disparu. Alors, ce sont des faits vrais. Et c'est ce qui se passe avec le début du roman, avec un scientifique chinois qui va à Hong Kong, fait l'annonce, et puis il va disparaître. Alors, quelques semaines plus tard, on a découvert que la Chine, en effet, soutenait les recherches de He Zhenkuai, ce scientifique chinois. Et plus, le gène CCR5, qui en effet fait la régulation de l'entrée du virus VIH dans le corps humain, aussi est lié à l'intelligence des êtres humains. Alors, en effet, on s'est rendu compte que la Chine faisait des expériences génétiques pour rendre les gens plus intelligents, sous le déguisement que c'était pour le VIH. Et alors, les Chinois, ils veulent créer une sorte de super-homme, une autre humanité. Et c'est quoi ça, sinon le rêve des nazis? Alors, on s'est rendu compte qu'ils ont le rêve des nazis.
Et ils sont en train de le créer.
Voilà, et les conséquences sont énormes. Alors, le bouquin va explorer tout l'investissement des Chinois dans l'intelligence artificielle. Et vous savez, quand les Chinois ils font un investissement sur un sujet, ils ont une très grande puissance. Je vous donne un exemple. Ils ont décidé en 2007 d'investir dans les lignes de grande vitesse, les trains. En 2007, ils n'avaient aucun kilomètre de ligne de TGV. 10 années plus tard, en 2017, ils avaient plus de lignes de TGV que tout le monde ensemble. Car ils ont fait le pari de développer le TGV. Et maintenant, ils ont changé ce pari pour l'intelligence artificielle. Et c'est facile de comprendre comment les choses vont évoluer dès ce moment. Et les conséquences sociales sont énormes, car on sait très bien que les différences d'intelligence amènent à la domination.
La dictature.
La différence entre nous et les chimpanzés, c'est quelques 1% et demi de gènes, mais c'est le suffisant pour que nous sommes 7 milliards et les chimpanzés sont peut-être 40 000 dans la planète. Alors, on arrivera à un moment où il y aura plusieurs humanités, où les Chinois vont créer des enfants qui sont deux fois plus intelligentes que les autres personnes, et quelques enfants seront quatre fois plus, les autres 10 fois plus. Il y aura des gens qui diront non, je ne veux pas manipuler génétiquement mes enfants, alors par des raisons religieuses ou éthiques, n'importe quoi. Alors nous aurons plusieurs humanités. Et les plus intelligentes vont dominer les autres. Alors c'est un grand défi pour nous, les Européens, les Occidentaux. Qu'est-ce qu'on va faire devant cette réalité? Et c'est là que Immortel joue un rôle. C'est un roman qui nous explique les projets chinois et les conséquences de ce projet.
Cela pose la question de l'éthique du progrès.
Oui.
Tout est-il acceptable au nom de la vertu du progrès?
Oui, voilà l'enjeu. Nous jouons sur l'éthique. Le problème, c'est que les Chinois, ils n'ont pas des soucis autour de l'éthique. Ils pensent que ça, c'est une chose, la culture judéo-chrétienne et tout ça. Et alors, ils ne sont pas concernés. Et puisqu'ils sont préparés, disponibles pour faire ce que les Occidentaux ne sont pas prêts à faire, bon, là, c'est tout un nouveau enjeu. Et si on dit, bon, par des raisons éthiques, on ne fera pas, et c'est une position raisonnable, la conséquence est évidente. En quelques années, on aura des Chinois super intelligents, avec les manipulations génétiques, mais aussi avec ce mélange avec la technologie, cette cyborgisation de l'humanité, et on sera tout à fait dépassé et dominé par cette nouvelle culture, cette nouvelle civilisation qui est en train d'être née. Et c'est véritablement une décision très difficile à prendre. Est-ce qu'on ne fait rien par des raisons éthiques et on sera absolument dépassé et colonisé? Ou est-ce qu'on fait? Et finalement, ça veut dire que, bon, on va franchir des barrières éthiques. C'est l'enjeu pour nous, c'est un grand défi, c'est un grand problème.
Vous l'expliquez très bien avec à la fin du livre, avec la conférence à l'ONU, où effectivement les Européens sont perdus entre l'éthique, l'humanisme et le côté trop technologique d'avancer de ce surhomme. Surtout que ça va même plus loin.
Je présente tout cet enjeu. Et en effet, le défi devant nous, nous avons une société libérale, avec une démocratie libérale, mais les Chinois et les Américains, ils ont pas seulement une culture libérale, non, et en effet, les Chinois ne l'ont pas, mais ils ont une économie très libérale. Et là, ils sont en train à tout l'instant, de créer une nouvelle technologie parce qu'ils n'ont pas de limites. Et c'est là que les choses se jouent, parce que s'ils n'ont pas de limites, ils font n'importe quoi et ils vont dominer. Et en effet, ça se passe déjà. Si on pense, par exemple, les grandes entreprises électroniques, Google, elle est américaine. Tencent, elle est chinoise. Facebook, elle est américaine. Twitter, elle est américaine. Huawei, elle est chinoise. Microsoft, elle est américaine. On ne trouve aucune grande électronique européenne. Alors, il y a une phrase à la fin du bouquin qui dit les Américains, ils innovent, les Chinois, ils copient, et les Européens, ils régulent. On fait, ah, il faut régler ça. Mais quand on ne fait que régler, on est déjà dépassé. Et c'est vraiment le grand problème. Le grand débat en Europe à ce moment-là, c'est comment taxer les GAFA. C'est pas comment créer les GAFA. Alors, on accepte du début que nous sommes déjà dominés et il n'y a pas d'espoir. Car les politiciens parlent beaucoup d'innovation, et là, le sujet est vraiment l'innovation, mais ce ne sont que des paroles dans la bouche, parce que les politiques ne sont pas là. Je dis souvent, la pelouse, elle n'a pas de croissance à cause d'un règlement qui est sorti du comité central. La pelouse, elle se développe parce qu'il y a du soleil, il y a de l'eau. Alors, si on veut de l'innovation, il faut créer les conditions. Et ça a un prix. Parce que du moment qu'on commence à innover, on ne sait jamais où cela va nous amener. Mais le choix devant nous, c'est de le faire sans savoir où cela va nous amener, ou ne rien faire et laisser les Chinois et les Américains, mais surtout aujourd'hui les Chinois, nous amener là où ils veulent. Et c'est vraiment le terrible enjeu devant nous.
Il y a un autre défi qui est lié à l'intelligence artificielle. Vous en parlez aussi dans le livre. C'est le chômage, non pas de masse, mais le chômage total. Alors, qu'allons-nous faire de toutes les personnes dont l'intelligence artificielle va détruire, et même parmi les cadres, va détruire les emplois?
Oui, en effet, c'est pourquoi le roman dit toujours « L'humanité, en tant qu'on la connaît, est presque finie. » Parce que les changements seront très rapides dans les prochains 10-20 années, et ça sera une autre humanité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avec la révolution industrielle, les machines ont été créées, et elles ont remplacé les gens dans des travaux manuels, les usines avec des machines sont apparues, dans l'agriculture c'est la même chose, avec les grandes machines et tout ça. Mais ça, petit à petit, a changé. Et aujourd'hui, les gens ne travaillent presque plus dans les usines. En Chine, ils ont déjà ce qu'ils appellent les usines noires. Ça veut dire qu'il n'y a personne là, tout est, sont des ordinateurs, et il n'y a pas de lumière pendant la nuit, car les machines n'ont pas besoin. Alors, ce sont des usines noires. L'agriculture, c'est la même chose. Je me souviens, quand je suis né au Mozambique, dans l'Empire portugais, et quand je suis venu pour le Portugal, dans les années 70, je pense que 80% des gens au Portugal travaillaient dans l'agriculture. Aujourd'hui, ce n'est que 2%. Ce sont les machines qui font tout. Alors, les machines nous ont remplacés dans les travaux manuels. Et nous sommes changés pour des travaux intellectuels, de création et tout ça. Mais avec les derniers développements dans l'intelligence artificielle, surtout avec le big data et le deep learning, de concepts nouveaux, les machines sont capables aujourd'hui de créer comme les gens et quelquefois mieux que les gens. Par exemple, dans des jeux très créatifs comme les échecs, ils nous gagnent déjà. Votre jeu d'échecs dans l'ordinateur ou dans le portable, il vous gagnera. Alors, votre portable, il a une capacité d'ordinateur plus forte que les ordinateurs qui ont mené l'homme sur la Lune dans les années 60, et voilà, ça nous dit beaucoup. Et ce changement veut dire que les ordinateurs prennent nos travaux, nos métiers intellectuels. Il y a déjà des entreprises qui ont des algorithmes dans le conseil d'administration. Ils prennent des décisions. Si vous allez à la banque pour demander de l'argent pour acheter une maison, c'est pas le banquier qui va prendre la décision de vous donner l'argent ou non. Ça sera un ordinateur. Il va vous étudier, il dira oui ou non et combien. Et dans les marchés financiers sont déjà des ordinateurs qui prennent toutes les décisions. Dans l'ingénier, les ingénieurs, en effet, aujourd'hui, les ordinateurs prennent des décisions. Il y a même déjà des voitures qui marchent toutes seules. Alors, les chauffeurs seront sans métier bientôt. Et alors, on amène cela à toute la société. Et ça veut dire qu'on n'aura pas de travail. Alors, ça nous amène à une société qui doit se changer. Et au lieu d'avoir un salaire, on aura des subventions. On nous donnera de l'argent pour acheter les produits créés par l'intelligence artificielle. Et ça a déjà commencé. On commence par, on travaille 7 jours par la semaine, puis c'est 6 jours, puis c'est 5 jours, puis c'est 10 heures chaque jour, puis c'est 9 heures, puis c'est 8 heures, puis c'est 7 heures. Alors, l'horaire des vacances va commencer à s'élargir et on arrivera à un moment où nous n'irons pas au boulot parce que les machines feront tout. Et alors, la question, qu'est-ce que deviendra de l'humanité? Parce que, vous savez, le cerveau, il est un muscle. Il se développe ou non si on fait des exercices avec le cerveau, comme le corps humain. Si on ne fait pas les exercices, par exemple, si vous n'allez pas au gymnasium, vous n'aurez pas des muscles très forts, vous ne serez pas très costaud. Pour devenir costaud, il faut exerciter les muscles. Le cerveau, c'est la même chose. Alors, si on n'utilise plus le cerveau, ça veut dire qu'on deviendra moins et moins intelligent. Et ça va nous amener à une idiotisation de l'humanité. On ne sait rien faire. On n'exerce pas le cerveau. Aujourd'hui, il y a une étude très intéressante chez les chauffeurs de taxi à Londres. Ils ont étudié le cerveau des chauffeurs à Londres, des taxis, qui utilisaient le GPS et le Google Maps pour s'orienter, avec les autres chauffeurs qui n'utilisaient pas. Ils conduisaient à l'ancienne. Ils ont découvert que le cerveau des chauffeurs qui utilisaient les méthodes traditionnelles d'orientation, ils avaient un cerveau dans le côté de l'orientation beaucoup plus développé que les autres. Alors, puisque les autres n'utilisaient pas les cartes normales, ne s'orientaient pas eux-mêmes, ils utilisaient le GPS et le Google Maps, ils ont atrophié leur cerveau. Et alors, ça va se passer avec tout. Et on deviendra presque des enfants dans ce sens. Et ça, c'est la fin de l'humanité. Parce qu'on deviendra vraiment infantile. Et ce seront les machines qui prendront le contrôle. Et ce processus est déjà commencé.
D'ailleurs, le roman, le processus, c'est Xiao. C'est-à-dire la machine qui est capable, pour se maintenir, pour survivre par elle-même, de détruire l'humanité. Et sans vergogne, hein, puisque c'est une machine, elle n'a pas d'état d'âme, elle n'a pas de conscience.
Oui, les machines, elles n'ont pas de conscience, mais c'est là que la cyborgisation va les amener la conscience. Les machines vont nous donner la capacité cognitive de mémorisation, d'exécution des choses, et ce sont des capacités augmentées. Par exemple, imaginons-nous que vos yeux ne marchent plus. Alors, il faut les remplacer par des yeux électroniques. Mais pourquoi pas faire des yeux plus performants que les yeux des gens normaux, plus que des yeux biologiques. Il y a ce cas d'un athlète sud-africain, Oscar Pistorius, qui est allé aux Jeux Olympiques, il a gagné, il n'avait pas de jambes. Alors, c'était les jambes artificielles qui couraient plus vite. Elles étaient plus performantes que les jambes biologiques des autres. Et ça va se passer. Alors, la technologie, elle va nous donner des capacités plus performantes en tout. Et nous, qu'est-ce que nous irons donner à la technologie? Nous irons donner la conscience. C'est ainsi que les machines deviendront conscientes. Elles amèneront à l'être humain la technologie plus performante et nous amènerons à la technologie notre conscience. Et les cyborgs, ça, c'est pourquoi je disais, ça sera 1% humain, ça sera la conscience, et 99% technologique, ça sera le corps. Et c'est ainsi qu'on peut donner de la conscience aux machines. Sauf si on trouve une façon encore plus directe de le faire, ce qui n'est pas impossible. Mais pour l'instant, on peut envisager ceci comme la façon de donner la conscience aux machines. Mais finalement, quand on pense, c'est inévitable, car le système solaire, il va finir un jour, le soleil il sera plus grand dans quelques milliards d'années, la vie sur la Terre ne sera pas possible, et nos corps ne sont pas conçus pour les voyages hors de la planète. Nous sommes des êtres biologiques. Mais les machines, elles peuvent se concevoir en tant que technologie de façon à sortir de la planète. Et en effet, c'est ce qu'on fait déjà quand on a envie, quand on envoie des satellites sur Mars, par exemple, ou Vénus, ce sont des robots. C'est de la technologie qui voyage, ce n'est pas nous, les êtres humains. Et nous voyageons avec la technologie. Et possiblement, ça sera la façon de l'humanité de survivre à la fin de la vie sur la Terre. Pas seulement l'humanité, la vie sur Terre. La façon de survivre, c'est de faire une émigration pour la technologie. Je comprends que c'est terrifiant quand on imagine ça. La vie sera finie sur la planète, car la planète deviendra trop chaude à cause de la croissance du soleil. Mais, comme disait le Bouddha, la vie, c'est changement. Et il nous faut accepter le changement, les choses ne s'arrêtent pas.
Alors, vous avez dans votre livre cité Big Brother. En lisant votre livre, je l'ai relu d'ailleurs pour me réimprégner complètement, c'est pas Big Brother que j'aurais cité, c'est Aldous Huxley. Parce que finalement, avec des hommes super intelligents et d'autres qui vont devenir des enfants, eh bien, on fait les adultes alpha et bêta de Aldous Huxley, avec l'horreur d'une dictature, de la technocratie et d'une technostructure qui s'en fout, comme de l'an 40, de la majorité de l'humanité.
Oui, en effet, c'est le défi devant nous, et c'est pire que ça, car nous n'aurons pas les alpha et les bêta. Nous aurons les alpha, les bêta, les C, les D, les E, parce qu'il y aura des gens qui seront deux fois plus intelligents que les autres, mais il y aura des autres qui feront des changements génétiques ou de la technologie pour être quatre fois plus intelligents, et d'autres feront 10 fois plus, d'autres feront 1 million de fois plus, alors nous aurons plusieurs humanités. Et ça, c'est vraiment une chose difficile. C'est vrai qu'on peut régler avec un traité international pour ne faire pas ça, mais sommes-nous sûrs que la Chine respectera ce traité? Et même si elle le respecte, est-ce que la Corée du Nord va le faire? Et même si la Corée du Nord le fait, est-ce qu'on peut être sûr qu'un milliardaire quelconque va faire la manipulation des gènes de ses enfants pour qu'ils soient clandestinement plus intelligents que les autres? Alors, du moment que la boîte Pandora est ouverte, il n'y a plus renfermé. Pandora ne reviendra pour la boîte plus. Et c'est justement ça, dès que la connaissance, la façon de le faire est sortie, tout le monde peut le faire avec l'argent, en pays avec des scrupules éthiques moins stricts que les Européens, par exemple. Et c'est incontrôlable. C'est là que le jeu se joue. Et c'est pourquoi je pense qu'on peut essayer de contrôler, et on va essayer de contrôler. Mais je pense que c'est une illusion. Même si on contrôle pendant quelques décennies, imaginons, on ne peut pas être sûr qu'on va contrôler pendant 2000 ans, 3000 ans, 5000 ans. Alors, tôt ou tard, les choses seront hors contrôle, comme une pandémie. Et voilà, ça sera toute une nouvelle humanité. C'est pourquoi je dis, l'humanité, en tant qu'on la connaît, elle est presque à finir. Mais c'est le prix pour les êtres humains de viendre immortels. Et voilà pourquoi le titre du roman.
En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment un roman que tout le monde doit lire, d'autant qu'il est vraiment... il pose des questions. Effectivement, vous ne parlez pas en tant que il faut faire ci ou il faut faire ça. Vous posez les questions à chacun de se faire son opinion. Et pour moi, c'est une opinion assez angoissante, pour dire franchement les choses. Mais merci beaucoup et on espère vous avoir à nouveau pour le 20e. Il va parler de quoi le 20e?
Oui. C'est une histoire qui se passe en Auschwitz. Alors, ça sera une histoire vraie que j'ai découvert, un magicien à Auschwitz. Il est déjà sorti au Portugal et j'espère que l'année prochaine, on pourra le lire en français puisqu'il est déjà en temps d'être traduit.
Nous serons ravis de vous rencontrer à nouveau à Strasbourg. Merci beaucoup,
très
José.
Bien, c'est un plaisir. Merci beaucoup.
Et soignez-vous bien.
Merci.
À bientôt.
Nous allons marquer une nouvelle pause musicale dans cette émission passé-présent. C'est toujours Indochine. Nous écoutons Marilyn.
Embrasser le garçon sur la bouche et puis se mouiller, l'emmener dans le fond du couloir et puis se brûler. Être blanc, être pâle, se rechercher, la vie se faire mal, en se disant que juste après, on ne le regrettera sûrement pas, juste après.
Écoutez, passé, présent, l'émission historique de Radio Judaïka. C'est le moment de la chronique littéraire Plume d'Histoire présentée par Emmanuel. Nous commençons par l'Antiquité. L'Antiquité égyptienne avec l'Égypte, ultime espoir, la vie héroïque du grand prêtre Pétosiris. C'est signé bien évidemment Christian Jacques et c'est publié aux éditions Ixo.
Alors, nous sommes en 324 avant Jésus-Christ. L'Égypte est occupée par les Perses, envahisseurs rusés et cruels, déterminés à détruire la civilisation égyptienne. Ça va même plus loin, la langue, les dieux, tout le monde égyptien. L'essentiel de l'Égypte plie sous le joug, mais à Hermopolis, cité de Thoth, dieu des savants et des scribes, Hermopolis, il va y avoir un lieu de résistance avec ce qu'ils peuvent faire comme résistance. Et à la tête de la rébellion, Pétosiris. Alors c'est une histoire vraie puisque nous allons retrouver au fur et à mesure du livre des inscriptions traduites du tombeau de Pétosiris. Pétosiris était grand prêtre avec son épouse Année Heureuse qu'il adorait. Lui et les rebelles sont décidés à combattre jusqu'au bout, jusqu'à la mort si nécessaire. Mieux vaut mourir que de vivre en esclave. Mais voilà que sur l'échiquier apparaît une tierce personne, Alexandre le Grand, et Alexandre va balayer les Perses.
L'Égypte, l'ultime espoir, la vie héroïque du grand prêtre Pétosiris, c'est signé Christian Jacques, c'est publié aux éditions XO. Nous faisons un grand bond dans le temps, puisque nous atterrissons au siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, avec le mystère de la main rouge. C'est signé Henri Lovenbruck et c'est publié toujours aux éditions XO.
Voici la suite du Loup des Cordeliers. Nous nous retrouvons en 1789. La Bastille vient de tomber. Danton, Desmoulins et Robespierre rentrent dans le jeu de l'histoire. Le journaliste Gabriel Joly, qui est le héros de toute cette histoire, a découvert l'identité du loup des Cordeliers, un justicier qui hante les rues de Paris la nuit. Mais alors qu'il est sur le point de le confondre, le loup s'enfuit et l'histoire rebondit.
Nouveau saut dans le temps, nous sommes à la veille de la Première Guerre mondiale avec l'orpheline des Sœurs de la Charité de Florence Roche aux éditions Presse de la Cité dans l'excellente collection Terre de France, que vous affectionnez tant, Emmanuel.
Mathilde, orpheline, fille d'une criminelle envoyée au bagne pour le meurtre de 4 personnes, a grandi dans le pensionnat des Sœurs de la Charité au Puy-en-Velay. Elle est lingère et rencontre en 1913, lors d'une promenade, Armand, fils unique de la famille Josserand, famille bien prospère. Mais Armand a déjà une promise, mais c'est vrai, on est en 1913.
L'orpheline des Sœurs de la Charité de Florence Roche aux éditions Presse de la Cité dans la collection Terre de France. Alors Christian Jacques est visiblement très prolifique. Il y a l'égyptologue réputé, reconnu. Il y a aussi l'auteur de romans policiers qui nous propose toujours aux éditions XO Que le diable l'emporte.
Alors c'est une nouvelle enquête de l'inspecteur Higgins. Je ne sais pas si vous êtes comme moi fan de l'inspecteur Higgins, mais voilà la nouvelle enquête. Un homme l'invite à déjeuner et lui révèle qu'il a commis le meurtre parfait, en fait plusieurs meurtres parfaits, et qu'il compte bien en commettre d'autres. Le jeu, c'est sur le nom d'Higgins et à Higgins d'arrêter le diable.
Que le diable l'emporte de Christian Jacques aux éditions XO. Marionnette d'amour d'Élise Fischer, que nous apprécions beaucoup ici en Alsace. C'est dans la collection Territoire aux éditions Kalman-Lévy.
À l'été 1992, Milou pleure la mort prématurée de Jacinthe, celle qui était comme une sœur pour elle, celle avec qui elle partageait sa passion des marionnettes. Tous deux avaient participé avec un enthousiasme débordant au premier festival international de la marionnette à Charleville en 1961. Mais Milou a pris un autre chemin et il ne lui reste de Jacinthe qu'un paquet de lettres jamais expédiées.
Marionnette d'amour au pluriel, c'est le dernier Élise Fischer, c'est dans la collection Territoire, toujours au pluriel, aux éditions Kalman-Lévy. Le testament d'Adrien de Gilbert Borde dans la collection Terre de France, aux éditions Presse de la Cité.
Après des années d'absence, le retour de Pablo, convoqué par le notaire pour l'ouverture du testament d'Adrien, surnommé le Fada, fait ressurgir bien des méfiances dans un village isolé de Haute-Provence. Adrien était très riche et souhaitait la prospérité du village. Il avait fait installer de grandes orgues dans une chapelle désaffectée pour créer un festival de musique et il n'avait pas pu achever son dernier projet, un complexe hôtelier.
Le testament d'Adrien, c'est signé Gilbert Borde, c'est publié dans la collection Terre de France aux éditions Presse de la Cité. La maison de Charlotte de François Bourdon, toujours dans la collection Terre de France et encore aux éditions Presse de la Cité.
Sur le bassin d'Arcachon, la maison du Cap est pour Charlotte enracinée dans ces lieux depuis des décennies, un havre de souvenirs. Mais en 1965, son neveu veut la vendre à un promoteur. Charlotte va devoir se battre et elle va le faire avec l'aide d'Iris, une jeune architecte.
La maison de Charlotte, c'est signé François Bourdon, c'est publié aux éditions Presse de la Cité dans la collection Terre de France. Et nous terminons cette chronique Plume d'Histoire, Emmanuel, par un roman contemporain, Les incroyables aventures des sœurs Shergill. C'est publié aux éditions Belfond et c'est signé Bali Kouar Jasval.
C'est pas la première fois que nous avons cet auteur et que j'apprécie beaucoup. À la lecture dans l'affaire ici, à la lecture du testament de leur mère, les trois sœurs Shergill restent perplexes. Elles doivent toutes trois partir en Inde pour effectuer un pèlerinage dont leur mère a tracé l'itinéraire. Mais les trois sœurs ont bien du mal à se supporter et pourtant elles vont toutes trois se découvrir, se redécouvrir et nous faire la connaissance de ce milieu un peu lointain pour nous qu'est l'Inde.
Merci beaucoup Emmanuel, merci à Lucas qui a réalisé cette émission et c'est en chanson que nous allons nous quitter, toujours Indochine, nous écoutons Lady Boy.
Un ciel sans l'amour.